Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois. Réalisée par Benjamin Huy, mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Dernier temps de notre série que nous consacrons à la fabrique des campagnes électorales. Lundi, c'est le bilan des sortants qui nous occupait. Mardi, l'organisation de la concurrence. Mercredi, le financement. Aujourd'hui, zoom sur la dernière étape des campagnes, celle qui précède directement le scrutin. Des meetings aux réseaux sociaux, mobiliser son électorat. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je me présente devant vous en tant que petite fille d'un mineur, en tant que fille d'un enseignant et d'un journaliste. En tant que première femme élue au Sénat américain de l'État du Minnesota, pour annoncer ma candidature à la présidence des États-Unis.
Il faut convaincre ces gens de sortir malgré le froid. Il ne suffit pas de se montrer dans les grandes zones urbaines, il faut être dans les 1679 circonscriptions de l'État. Les campagnes doivent s'organiser, ça force à réfléchir à cette relation avec les électeurs et à la meilleure façon d'entrer en contact avec eux.
Je pense toujours que l'Iowa compte. Je pense toujours que vous jouez un rôle très important dans la démocratie des États-Unis. En permettant aux gens d'entrer chez vous, dans vos magasins, pour vous donner l'occasion de comprendre ce que j'ai dans la tête, mais aussi dans le cœur.
Alors que les États-Unis sortent tout juste des élections de mi-mandat, une nouvelle campagne s'ouvre déjà avec des candidats à la primaire démocrate qui se bousculent dans la perspective de la présidentielle de 2020. On entendait l'instant Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, John Delaney, qu'on entendait là également le premier et la dernière à s'être déclarée. Mais il y en a d'autres, Cory Booker, Andrew Yang, Julian Castro, Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren, 9 candidats au total à ce jour. Les États-Unis semblent pris dans une sorte de campagne permanente où la mobilisation des électeurs est devenue quasiment un sport national. Alors quels sont les outils de la communication politique ? Comment ont-ils évolué au cours du temps ? Du simple porte-à-porte au meeting et autres clips télévisuels, des fake news au piratage d'emails, quelles sont les différentes stratégies mises en œuvre et qu'est-ce que la communication politique révèle de la stratégie électorale des uns et des autres ? Comment les partis politiques choisissent-ils leurs cibles ? Comment adapter la communication pour les atteindre ? Est-ce qu'elle évolue en fonction des profils, des minorités à atteindre ? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin en plateau. Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur notamment de Trump, la revanche de l'homme blanc qui était paru chez Textuel, mais aussi d'un article qui vient de paraître dans la revue Politique Internationale sur la réélection, peut-être, de Donald Trump en 2020. À vos côtés, Olivier Richam, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous maître de conférences en civilisation américaine à l'université Lumière Lyon 2, auteur notamment de la diversité en Amérique, politique de représentation des minorités ethno-raciales aux États-Unis. C'était aux presses de l'université Paris-Sorbonne en 2013, mais aussi de nombreux articles. Je vais en citer deux que j'ai lus pour préparer cette émission. Au paroxysme de la polarisation, les paradoxes de la stratégie électorale du Parti républicain et puis du côté démocrate, la crise identitaire du Parti démocrate face à l'avènement de l'aristocratie blanche. Alors, Marie-Cécile Nage, je vais commencer avec vous. Je le disais, on sort tout juste d'élections aux États-Unis. Il y a eu en novembre dernier des midterms. Quelques semaines plus tard, les annonces de candidature pour la primaire démocrate se sont enchaînées. 9 candidats aujourd'hui. Donc on est déjà plongé dans la présidentielle de 2020. Est-ce qu'il y a, vous diriez aujourd'hui, Marie-Cécile Nave, une forme d'accélération de la vie politique américaine ou est-ce que finalement ce contexte de campagne permanente, il a toujours été un petit peu la règle aux États-Unis, même avant, j'allais dire, l'émergence des réseaux sociaux qui, évidemment, ont accéléré le temps politique, le temps tout court, d'une certaine manière. Marie-Cécile Nave.
C'est un petit peu les deux, dans la mesure où il y a des élections très importantes tous les 2 ans, les midterms et puis les élections présidentielles. La Chambre des représentants est renouvelée intégralement tous les 2 ans et donc évidemment, on est quasiment en campagne permanente. Et puis, comme vous le dites, hein, l'accélération du temps politique avec le numérique, mais aussi avec le personnage très particulier du président en place, qui est toujours déjà en campagne, comme je le dis souvent, qui est dans le personal branding tout le temps et qui finalement met un petit peu, on a l'impression qu'on a un petit peu mis de côté la politique routinière, l'agenda routinier pour être tout le temps dans la communication politique et personnelle. Face à lui, les démocrates doivent se mobiliser. La pléthore de candidats aujourd'hui et la liste est sans doute pas terminée. Illustre la volonté d'en découdre face à ce président. Effectivement, on est déjà entré dans la campagne des présidentielles 2020.
Olivier Richomme, c'est vrai que dans les discours des candidats aux primaires démocrates, toutes et tous, parce qu'il y a beaucoup de femmes pour cette primaire démocrate, ont évoqué cette ambition, évidemment, de se poser en alternative à Donald Trump. Toutes et tous ont affiché un certain empressement, voire peut-être une forme d'emportement pour mettre un terme à cette ère Trump. Est-ce que cet empressement, cet emportement ne risque pas de reléguer au second plan la stratégie politique qu'il convient d'adopter précisément pour battre Donald Trump? Est-ce que le Parti démocrate se pose les questions concernant ce qui serait le bon ou la bonne candidate pour y parvenir? Est-ce qu'on a le bon profil, le bon positionnement? Est-ce qu'on pense à ça? Ou est-ce que finalement on est déjà dans une mécanique qui fait que on n'a pas le temps de penser, on y va?
Non, bien sûr, le parti est complètement déchiré. On cherche les enseignements à tirer de 2016. Alors la présence de Donald Trump va surdéterminer cette élection de 2020. Mais en fait, on voit qu'avec Hillary Clinton, on a dit c'est son tour et on a un peu bouclé les primaires. On a tout fermé, on a tout verrouillé alors que c'était visiblement pas le bon candidat. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi l'engouement qu'on a eu pour Sanders, c'est que c'était aussi un peu tout sauf Clinton. Et donc là, cette année, on a le revers de la médaille. On a là beaucoup de candidats qui se présente, et donc forcément il y a des candidats de valeur, et donc forcément il y a des candidats qui correspondent à beaucoup de choses différentes, et le parti est déchiré. On ne sait pas si d'un point de vue stratégique c'est ça que servent les primaires. Est-ce qu'il faudrait un candidat qui vraiment soit le candidat le plus à même de gagner lors de l'élection générale, ou alors est-ce qu'on veut un candidat qui va émerger lors des primaires, c'est-à-dire un candidat qui va donc être adapté à l'électorat des primaires, qui n'est pas du tout l'électorat de l'élection générale? Et donc on voit que le parti est déchiré entre des candidats qui symboliquement pourraient permettre d'agrandir la coalition démocrate et d'élargir la base électorale du parti. Et puis en même temps, on a certaines personnes qui se disent, mais en fait, le but, c'est bien de battre Trump. Et donc, peut-être qu'il faudrait un candidat beaucoup plus centriste, beaucoup plus quelqu'un du Midwest, quelqu'un qui permette d'aller rechercher l'électorat qui s'est tourné vers Trump.
Si je vous ai bien compris, je vous donne la parole tout de suite, Marie-Cécile Nave, mais au fond, le Parti démocrate n'a pas véritablement le choix. Dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, vous écrivez à propos des primaires démocrates, je vous cite, compte tenu de l'évolution démographique de l'électorat des primaires démocrates, elles opèrent une sélection naturelle qui rend l'émergence d'un candidat intersectionnel presque inévitable. Plusieurs choses peut-être à préciser. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par un candidat intersectionnel? Et est-ce que ça veut dire que, au fond, de toute façon, on peut poser la stratégie qu'on veut du côté du Parti démocrate? De toute façon, le candidat pour l'élection de 2020 va s'imposer de lui-même, on n'aura pas le choix.
Il y a des contraintes structurelles fortes. En fait, on a deux électorats complètement différents dans les deux partis. On a une polarisation qui s'est acerbée au fur et à mesure des décennies entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Le Parti républicain a un électorat qui s'est recentré sur un électorat principalement blanc et en particulier âgé et masculin. L'électorat démocrate, à l'inverse, c'est un électorat qui est beaucoup plus large et qui essaye de s'ouvrir au maximum à la diversité. Enfin, c'est en fait ce que je mentionnais quand je parlais de candidat de l'intersectionnalité, c'est qu'on a des candidats qui... Alors on a des primaires, on en a 50, et l'ordre du calendrier est aussi très important. En quatrième primaire, vous avez la Caroline du Sud. La Caroline du Sud est un état où la communauté africaine-américaine, lors des primaires démocrates, pèse énormément. Et donc forcément, vous avez un avantage structurel si vous êtes un candidat africain-américain ou qui est proche de cette communauté, puisqu'on sait qu'ils votent en général d'une seule voix, et souvent, les Africains-américains votent pour le candidat africain-américain si on en a un. Il se trouve que là, par exemple, on en a deux, et donc peut-être que le vote africain-américain va être scindé en deux, et donc peut-être que ça peut jouer pour un autre candidat. Mais toujours est-il que le calendrier et le type de primaires sont des primaires ouvertes, des primaires fermées, et le type de démographie qu'on va mobiliser lors de ces élections primaires va être très important, puisque arrivé au mois de mars, a priori, où il y a de grandes chances, et on aimerait bien que la primaire ne dure pas trop pour ne pas trop endommager le candidat qui va sortir, vu le nombre d'États qui votent en mars, à partir de mars, on devrait avoir une bonne idée de qui sera le candidat.
Marie-Cécile Nave, c'est intéressant de bien comprendre qu'en réalité, aux États-Unis, avec ce système de primaire, le candidat s'impose en dehors de la volonté du fond du parti. Et donc, il est difficile de définir une stratégie électorale, en réalité.
C'est pas tout à fait vrai pour 2016, hein, puisqu'en 2016, la manière dont Hillary Clinton a été désignée par le parti a été beaucoup contestée par les électeurs, qui étaient beaucoup plus partagés entre Clinton et Sanders. Et d'ailleurs, le Parti démocrate a revu ses règles de désignation en donnant moins de poids aux super délégués pour la prochaine présidentielle, pour que ce soit plus en reflet de la volonté populaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du côté de Trump, il attaque justement pas la dimension centriste du Parti démocrate, mais plutôt la tentation d'aller vers la gauche. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles élus au Congrès, qu'un nombre record de femmes élues à la Chambre des représentants, qui viennent, qui sont pour certaines nouvelles en politique, et qui ont poussé l'agenda vers la gauche. Et qui est d'ailleurs un agenda intersectionnel avec aujourd'hui le Green New Deal, par exemple, qui dit qu'il faut croiser les enjeux écologistes avec les enjeux sociaux, gratuité des études supérieures, santé universelle, etc. Mais Trump, dans ce qu'il dit aujourd'hui, c'est les socialistes démocrates, les socialistes sont dangereux pour les États-Unis, il l'a dit lors du dernier discours sur l'état de l'Union. Donc lui, il est déjà dans une stratégie rhétorique, une stratégie politique de s'opposer à un agenda qui serait socialiste, même si peut-être le ou la candidate choisie est plutôt du côté centriste.
Ça veut dire que si on se reporte, par exemple, sur ce qui s'est passé en 2016, ce qu'il attend plutôt, c'est un candidat du type Bernie Sanders plutôt qu'un candidat du type Hillary Clinton, sachant que ça sera ni l'un ni l'autre, évidemment.
Oui, c'est son intérêt d'avoir une élection extrêmement, extrêmement polarisée pour que, justement, les démocrates n'aillent pas chercher l'électorat centriste, et en particulier aussi des gens qui auraient pu voter Trump en 2016 et qui pourraient revenir du côté démocrate. Et c'est ce qui s'est passé au midterms dans un certain nombre d'états de swing states, d'états pivots comme Wisconsin, Michigan, etc., qui ont rebasculé du côté démocrate alors qu'ils avaient voté Trump en 2016. Et si effectivement plus, comme lui, il va aller chercher très probablement le cœur de son électorat, vraiment qui lui fait confiance et qui le soutient, qui est très à cheval sur les questions identitaires, qui veut le mur, qui n'y aura pas d'ailleurs contre la frontière mexicaine, son intérêt, c'est que l'élection soit très polarisée, très à gauche et très à droite. Si ça vient au centre, ça va le fragiliser, il le sait très bien.
Olivier Richomme, justement sur cette question identitaire, je le rappelle, donc c'est cet article que vous avez écrit, La crise identitaire du Parti démocrate. Vous y rappelez cette thèse défendue notamment par l'historien Mark Lilla, qui avait fait beaucoup de bruit aux États-Unis dans son ouvrage, qui expliquait que la défaite d'Hillary Clinton en 2016, elle était liée à une forme de prévalence des politiques identitaires, qui serait devenue au fond son unique point d'ancrage idéologique. La conscience identitaire de gauche s'est imposée au détriment de la politique de gauche, et Lilla appelait justement le parti à élargir un petit peu sa base électorale en revenant sur des thèmes, disons, plus transversaux, plus universalistes. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur ce point pour dire que finalement c'est le cœur de l'échec d'Hillary Clinton en 2016, et est-ce que le Parti démocrate en a tiré les leçons? Est-ce qu'il a les moyens finalement d'échapper à ce piège identitaire d'une certaine manière?
Alors, je ne sais pas si c'est un piège identitaire, ça peut être aussi un avantage, et c'est ce qui fait la spécificité du Parti démocrate par rapport au Parti républicain. En fait, le Parti démocrate...
Il s'est avéré être un piège, pardon, en 2016 quand même.
Oui, mais le Parti démocrate n'a pas de stratégie, justement à cause de cette difficulté à choisir entre ces deux modèles. Là où on voit une vraie stratégie, alors vous avez raison, ce sont souvent des coquilles vides, et c'est vrai qu'on mobilise surtout au moment des primaires et ce genre de choses, mais qu'en fait, on contrôle pas tout. Mais là où on voit qu'il y a des vraies stratégies de parti, c'est du côté du Parti républicain, qui là a une stratégie qui depuis les années 60 a été la stratégie sudiste. C'est là qu'on a vu le réalignement du Parti républicain et du Parti démocrate. C'est comme ça que le Parti républicain est revenu aux affaires, notamment domine le Sud depuis 40 ans. Et on a aussi, parce que vous parlez de mobilisation pour cette émission, mais il faut avoir le pendant pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'aux États-Unis il y a quelque chose de spécifique qui est aussi la démobilisation. C'est que le Parti républicain a mis en place des stratégies de démobilisation, persuadé que c'est dans son intérêt d'avoir un électorat, en fait, qui est son électorat de base. Donc, mobiliser sa base, c'est une chose. Mais là où on voit une vraie stratégie du Parti républicain, c'est sur la démobilisation. Et notamment, dans tous les États où les républicains sont en force, on a passé des tas de lois pour essayer de décourager les Africains-Américains, les minorités, les jeunes à se rendre aux urnes et à voter.
On va revenir sur ce cas précis, cette stratégie de la démobilisation. On va y venir. Mais Marie-Cécile Nave, pour rester sur la stratégie électorale du Parti démocrate, l'ADN au fond du Parti démocrate, c'est la lutte contre les inégalités. Or, aux États-Unis, les inégalités, elles sont directement corrélées avec au facteur ethno-racial. C'est-à-dire qu'en gros, les Afro-Américains, les Latinos sont proportionnellement, disons, plus touchés par la pauvreté que les Blancs, disons-le comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut construire un discours de lutte contre les inégalités en échappant au facteur ethno-racial ? Est-ce que le Parti démocrate peut réussir ce tour de force ?
Non, on ne peut pas. Il faut croiser les inégalités. Il faut croiser plusieurs choses. Il faut croiser effectivement la question de l'origine ethno-raciale, l'enjeu socio-économique et le genre aussi. Puisque les femmes noires et les femmes hispaniques sont beaucoup moins bien loties que les femmes blanches en matière de salaire, d'accès à l'emploi, et dans les mieux lotis, sans surprise, c'est les hommes blancs. Donc il faut croiser tous ces paramètres-là. C'est pas facile parce que évidemment c'est un équilibre, c'est un ajustement à trouver entre des revendications qui parfois peuvent être contradictoires et que Clinton n'a pas réussi à incarner, et puis c'était aussi la candidate, elle a vu comme la candidate de Wall Street, etc. Donc sur le plan des inégalités socio-économiques, elle a un petit peu gauchisé entre guillemets son agenda avec la montée de Sanders, parce qu'il fallait qu'elle gagne ces électeurs-là une fois la désignation faite. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent sur la scène politique qui n'ont pas ces complexes et qui affirment très clairement qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre le racisme, que les questions environnementales touchent plus les minorités raciales, pauvres. Donc en croisant beaucoup de thèmes de l'agenda, la santé c'est pareil, l'éducation, l'accès à l'enseignement supérieur. Donc vous avez aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant de suivre, des candidats vraiment très très décomplexés, des candidats ou des nouvelles figures, hein, Alexandria Cortez, elle sera pas candidate en 2020, mais elle pousse l'agenda plutôt vers la gauche, et en le poussant vers la gauche, eh bien, ça devient...
Quand vous dites pousser vers la gauche, il faut comprendre, au fond, un discours sur un discours de classe plus qu'un discours de race. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre?
Un peu tout ça, en fait. Et un petit peu tout ça. Et peut-être que le renouvellement de cette classe politique, qui est décomplexée, qui n'a rien à prouver, qui a tout à gagner, et qui est très, très fondamentalement anti-Trump, parce que lui, pour le coup, il privilégie un certain type de population, va forcer le Parti démocrate à revoir son offre. C'est toute la question. Est-ce qu'il va rester sur ses échecs? Est-ce qu'il va rester sur ses fondamentaux? Ou est-ce qu'il va écouter cette voie-là, sachant que d'un territoire à l'autre, évidemment, cet agenda est plus ou moins séduisant.
Justement, est-ce qu'il a tiré les leçons, le Parti démocrate? Regardons un peu ce qui s'est passé lors des midterms, et on voit que les démocrates ont réussi, Olivier Richomme, à reprendre la Chambre des représentants. Alors, pas le Sénat, mais la Chambre des représentants quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que cette reconquête est le fruit d'une nouvelle stratégie électorale, peut-être même d'une nouvelle communication aussi politique, et qu'au fond, on a tiré les leçons de cette défaite d'Hillary Clinton en 2016?
Tirer les leçons de la défaite, non. Et c'est, je crois, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on a vraiment un parti qui cherche sa stratégie et qui n'est pas prêt. Vous parliez tout à l'heure de vous êtes revenu directement presque au grâce contre classe. Et en fait, on voit qu'on a une division. C'est un peu caricatural, mais vous parliez de Marc Lilla qui demandait justement à la gauche un peu de se réformer dans une direction peut-être plus Sanders, c'est-à-dire de parler des inégalités en général. On a bien vu que ça, si c'est un discours qu'ils pourraient porter lors de l'élection générale, le problème, c'est que lors de l'élection primaire, ça ne marche pas. C'est que lors de l'élection primaire, vous avez une partie de l'électorat qui, lorsque Sanders leur dit on va réformer Wall Street, on va réformer la finance, et puis du coup, le racisme, ça disparaîtra. Non, ils veulent que l'on reparle du racisme américain comme quelque chose qui est spécifique au capitalisme américain, que la réforme de la justice doit prendre cette donnée en compte parce que c'est historiquement quelque chose de très important aux États-Unis, que le mouvement pour les droits civiques a oublié, qu'on a laissé de côté depuis 50 ans. Et donc ça, il y a une partie de l'électorat des primaires qui veut absolument l'entendre. Et donc, on a un parti qui est vraiment entre deux stratégies, c'est-à-dire une stratégie pour l'électorat de l'élection primaire et ensuite pour l'élection générale, vu qu'on va faire campagne dans des états un peu spécifiques et en plus avec un électorat différent. Et donc non, le problème du Parti démocrate aujourd'hui, c'est qu'il justement, il n'a pas choisi de stratégie et que ça va être la primaire qui va choisir, qui va tenir lieu de stratégie.
Ce que vous dites, et je vous donne tout de suite la parole, Marie-Cécile Nave, mais ce que vous dites, ça s'illustre très bien quand on regarde la tactique utilisée par Hillary Clinton quand elle est en primaire démocrate avec Obama. C'est Obama, au fond, qui rallie l'électorat afro-américain, et Hillary Clinton, elle, s'adresse plutôt à ces Américains blancs qui travaillent, c'est ce qu'elle dit, et d'une certaine manière, elle a ce discours contre les inégalités, et elle perd. Quand ensuite elle se retrouve face à Trump, elle joue pour le coup le discours des minorités et elle perd aussi. Au fond, elle change de tactique, mais dans les deux cas, elle perd, que ce soit dans un premier temps dans la campagne démocrate et dans un second temps dans l'élection générale. Marie-Cécile Nave, vous vouliez réagir?
Oui, le Parti démocrate risque de perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans la désignation d'un candidat ou d'une candidate avec les primaires. Et puis, ça va aller avec, c'est inséparable, dans le choix d'un agenda pour la présidentielle de 2020. Alors qu'en face, très probablement, à ce stade, parce qu'avec Trump, il faut être toujours très prudent dans les prévisions qu'on peut faire, très probablement, on va aller vers une ligne qui ne change pas depuis la campagne de 2015-2016. Et qui sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair plus tôt. Donc peut-être qu'arrivé à l'été 2020, le Parti démocrate aura il aura choisi son candidat ou sa candidate, il aura sans doute une offre à peu près cohérente, mais il aura perdu beaucoup d'énergie à se diviser et à trouver ses ajustements. Donc ça peut être aussi une fragilité pour lui, mais peut-être pas. Peut-être que l'anti-Trumpisme va quand même l'emporter.
Revenons un petit peu en arrière. La victoire du dernier démocrate, c'était celle de Barack Obama. Et lors de sa victoire, les observateurs avaient beaucoup souligné, alors évidemment, les qualités politiques intrinsèques du candidat, mais on avait aussi beaucoup mis en avant les méthodes utilisées par la campagne. Retour justement au moment de cette campagne. On est en 2008, extrait d'un discours de Barack Obama, le candidat.
There have been periods of time in our history.
Il y a eu des périodes dans l'histoire où le président a incité les Américains à mieux faire. Et je pense que nous vivons un de ces moments. Je pense que les Américains ont envie de faire quelque chose de différent et peuvent se mobiliser autour de grands changements. La vérité est qu'en fait, les mots donnent de l'inspiration. Les mots aident les gens à participer. Les mots aident les membres du Congrès à former une coalition afin de réaliser la réforme du système de santé ainsi qu'une politique audacieuse en matière de climat. Oui, ne sous-estimez pas le pouvoir des mots, car lorsque les Américains sont déterminés à réaliser quelque chose, ils y arrivent.
Marie-Cécile Nave, le pouvoir des mots, justement. Est-ce que Barack Obama a eu effectivement des méthodes, une communication politique aussi novatrice que ce qu'on a bien voulu le dire il y a maintenant une dizaine d'années, ou est-ce qu'au fond il n'a fait que adapter les nouveaux moyens et notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication à une stratégie qui était déjà bien étrennée, j'allais dire?
Le numérique a beaucoup joué dans l'élection d'Obama, mais il ne faut pas surestimer la place qu'il a eue. C'est un outil effectivement qui lui a permis de mobiliser notamment chez les jeunes, des gens qui étaient un petit peu éloignés du vote. Mais c'est un ensemble de paramètres qui explique son élection. Ça a été déjà beaucoup analysé, mais l'usure du pouvoir de George W. Bush, un discours qui est profondément optimiste, qui est profondément rassembleur, qui est un storytelling Yes We Can, qui est profondément optimiste, tourné vers l'avenir. Ça marche bien aux États-Unis, à droite comme à gauche. Et puis la volonté de faire campagne partout, de faire une campagne de terrain en s'appuyant aussi sur le savoir-faire des Républicains, qui ont ce savoir-faire, comme vous l'avez dit, Monsieur Richaume, tout à l'heure.
Depuis
les années 60.
C'est quoi ce savoir-faire républicain?
S'appuyer sur les communautés locales, sur les corps intermédiaires, sur les associations de droite ou de gauche, au niveau local, pour mobiliser les électeurs, pour mobiliser aussi les volontaires qui vont faire du porte-à-porte, qui vont, et ça c'était pas encore le cas avec Obama en 2008, mais qui vont utiliser les données personnelles pour aller cibler tel ou tel type d'électorat abstentionniste ou qui change de bord en fonction des élections. On le voit aux habitudes de consommation, ça c'est les données personnelles, on le voit. Donc, mais aussi vraiment labourer entre guillemets le terrain dans tous les États, dans tous les districts, dans tout sur l'ensemble du territoire, c'est ça aussi qui a fait que Obama a gagné. Donc il y a le numérique, il y a l'usure du pouvoir, il y a le fait d'avoir un discours profondément optimiste. C'est là aussi que le poids des mots est important, et de savoir remobiliser aussi par ce qu'il incarnait, un électorat qui allait peu voter et qui depuis d'ailleurs on recommence à ne plus trop aller voter, qui est l'électorat noir, l'électorat jeune.
C'était ça la force, Olivier Richomme, plus que la communication, effectivement, le porte-à-porte, les méthodes sur lesquelles le Parti républicain était peut-être plus fort. Est-ce que c'était ça, ou est-ce que c'était au fond l'identité même de Barack Obama? C'est-à-dire précisément ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que son identité afro-américaine faisait qu'il pouvait dépasser cette opposition entre discours sur la classe, sur les inégalités, et discours sur la race.
Alors, il y avait un candidat caméléon qui, effectivement, avait un discours qui pouvait s'adapter aux fils d'immigrés, aux Africains-Américains, à la classe moyenne, mais surtout, on avait surtout un bon candidat. On avait un candidat qui, quand il y avait une crise, on se souvient dès le début de la campagne, son pasteur qui dit des bêtises et tout, il vous fait un grand discours, un discours qui devient historique et il remet les choses sur la rail. On avait quand même un bon candidat. Donc forcément, il y a déjà ça qui aide. Mais ensuite, c'est vrai que pour revenir sur la mobilisation du numérique, ça change pas fondamentalement la donne quand les deux parties s'y mettent. Là où il y a eu un petit peu, c'est quand il y a eu un décalage, un parti qui s'est mis un peu avant l'autre, et là, c'est là qu'on a vu une différence. Mais autrement, qu'est-ce que ça change? Pour les démocrates, ce que ça a changé en particulier, c'est d'augmenter la base de données, la base de données des donateurs, et ensuite d'abandonner le système de financement public. Parce que Kerry avait voulu aussi faire campagne dans 50 États, mais ça coûte extrêmement cher aux États-Unis de faire campagne dans 50 États. Et donc là, on a vu que les démocrates se sont affranchis de cela, qu'on a pu lever des fonds, retourner vers des petits donateurs de 5-10 dollars, et ça vraiment, ça fait des petites rivières qui font des gros ruisseaux, qui a fait une grosse différence. Mais ce que nous apprennent les politistes, c'est que vraiment on peut mobiliser sa base avec les logiciels, avec les réseaux sociaux, mais que l'électorat qui est sur la sellette, il n'y a rien qui remplace ce qu'on appelle the ground game, c'est-à-dire de porte à porte et de parler à un humain, et qu'il y a un humain qui vient de vous dire mon candidat c'est ci, mon candidat c'est ça. Alors après, on peut aider à cibler, effectivement, pour savoir, cette personne, quand tu vas taper à la porte, c'est quelqu'un qui a un abonnement à un magazine de tir, c'est quelqu'un qui roule en scooter électrique, on a ces données-là qui nous permettent de cibler. Mais rien ne remplace le porte-à-porte, et c'est ça vraiment qui, alors, l'électorat qui est, voilà, qu'on peut convaincre ou qui peut changer d'avis est extrêmement petit. Et donc, en fait, on joue sur pas grand chose. Donc, effectivement, pour les partis, le plus sûr et ce qui garantit vraiment, c'est de mobiliser vraiment sa base. Et c'est là vraiment qu'on peut faire parfois la différence.
Mobiliser sa base, c'est évidemment quelque chose que Donald Trump a particulièrement bien réussi. Marie-Cécile Nave, en 2016, il l'avait emporté grâce au White Lash, le retour du bâton blanc. Le titre de votre ouvrage, c'est Trump, la revanche de l'homme blanc. Quand on regarde le profil type de l'électeur de Trump, c'est effectivement un homme blanc, plutôt assez âgé, pas très diplômé, plutôt vivant dans un état rural. Compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution démographique du pays, avec cette part de la population afro-américaine et latino qui est en augmentation, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'au fond, le choix de s'appuyer sur cet électorat blanc, c'est une stratégie court-termiste. Est-ce qu'on en a conscience du côté du Grand Hall Party, et est-ce que c'est quelque chose sur lequel on travaille pour, là aussi, bien penser l'avenir?
Oh oui, le parti est réfléchi depuis longtemps. Il y a de forts désaccords entre une grande partie de l'establishment républicain et Trump et son entourage, effectivement, dans l'idée d'aller chercher un électorat qui est beaucoup plus divers ethniquement, et en particulier l'électorat hispanique, qui est très conservateur sur les questions des mœurs, sur les valeurs familiales, par exemple, et qui a été très déçu. Mais pas que les Hispaniques d'ailleurs, par la politique de Trump de séparer les parents et les enfants à la frontière mexicaine dans les dans les politiques anti-migratoires et cet électorat-là c'est pas le cas aujourd'hui du tout, pourrait se tourner vers le Parti républicain s'il avait un discours moins identitaire. Donc oui,
en tout cas, c'est la stratégie.
Et la stratégie dominante aujourd'hui, c'est celle de Trump, mais depuis des années, le Parti républicain est profondément divisé sur cette question. Il perçoit bien que démographiquement, un jour, ça tiendra plus. On est dans les derniers scrutins où on peut uniquement s'appuyer sur l'électorat blanc. Aujourd'hui, plus d'un enfant sur deux, même les moins de 20 ans, sont majoritairement issus de mariages mixtes et sont majoritairement ce qu'on appelle les minorités majoritaires. Dans 30 ans, les Blancs sont minoritaires aux États-Unis.
Ouais, donc Olivier Richaume, le Parti républicain, lui aussi, se trouve face au défi du paysage ethno-racial des États-Unis. Il va falloir transformer, alors peut-être que ça sera du côté de l'électorat hispanique, comme nous le dit Marie-Cécile Nave, mais peut-être que ça sera là le futur de la base électorale républicaine, mais en tout cas, c'est un vrai défi.
Le Parti républicain est en crise. L'OPA de Trump sur le Parti républicain est une manifestation de cette crise. Oui. Vous avez raison, ils en parlent depuis des années. Quelle direction ? Ce qui est intéressant pour nous à suivre de loin, c'est que cette stratégie sur le long terme ne va pas tenir. Le Parti républicain va forcément devoir réorienter, prendre une nouvelle direction. Je ne sais pas quand, ça sera peut-être visiblement pas en 2020, mais sur le moyen terme, ça paraît inévitable et il va falloir qu'il y ait des personnages qui émergent et qui redonnent une nouvelle direction à ce parti, qui vont ramasser les miettes peut-être d'un parti où on aurait eu une guerre civile. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre, c'est de voir dans quelle direction le parti va être emmené et par quel leader. Pour l'instant, on ne les voit pas, car vraiment le Trumpisme a vraiment mis un couvercle sur tout ce qui se passait au sein du Parti républicain. Mais en fait, c'est un symptôme de la démocratie américaine ne va pas bien, parce que, entre autres, le Parti républicain est en crise.
Mais on va peut-être le voir dans certains... On va peut-être le voir dans certains scrutins législatifs en 2020, parce qu'il y a des États, parce qu'on est lié aussi encore une fois à la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, il y a des territoires où la population est démographiquement si diverse et le gerrymandering n'est pas forcément toujours favorable aux républicains.
Le gerrymandering,
c'est le découpage électoral pour les circonscriptions.
Merci.
Pardon. Il est globalement favorable aux républicains sur l'ensemble du territoire, mais dans certains endroits quand même, les candidats républicains qui vont être choisis aux primaires pour les élections législatives vont devoir tenir compte de cette diversité démographique. Et puis le redécoupage électoral va recommencer en 2020, et comme on a une situation où les démocrates ont quand même gagné beaucoup d'élections, beaucoup de sièges au niveau local, dans les parlements locaux, gouverneurs, etc., aux dernières midterms, eh bien, ce redécoupage électoral va être moins en faveur des républicains à partir de 2020. Donc, cette démographie-là, ils sont obligés d'en tenir compte, c'est certain.
Olivier Richaume, tout à l'heure, vous nous disiez que la stratégie du Parti républicain avait été très concentrée sur la démobilisation de l'électorat démocrate, notamment sur l'électorat non-blanc. Peut-être vous pourrez nous redire quelques mots pour justement qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et comment s'illustre précisément cette stratégie de démobilisation. Et puis ensuite, il faudra voir l'autre côté, parce que c'est une chose que de mettre le paquet pour démobiliser le camp adverse, c'en est une autre de mobiliser son propre camp. Et comme on le disait, il y a un défi absolument considérable pour le Grand Old Party, et par exemple, notamment sur la question des jeunes, les jeunes votent plutôt plus du côté démocrate que du côté républicain, et évidemment c'est l'avenir du pays, donc c'est une cible absolument prioritaire. Donc est-ce que là encore, il y a des efforts, et lesquels, pour aller chercher ces jeunes Américains et les faire voter Grand Old Party? Il y a un peu de travail, Olivier Richaume, mais on a un peu de temps. Allez, on y va.
Non, là, le temps sur le service public. Alors oui, le parti démocrate doit faire face. Dans les États qui sont tenus par les républicains, on a simplement passé des lois qui servaient à démoraliser, démobiliser, c'est-à-dire rendre par exemple l'inscription sur les listes électorales plus compliquée, ou alors faire que votre bureau de vote soit un peu plus loin de chez vous, vous mettez un bureau de vote là où il n'y a pas de transport public par exemple, ou des tas de choses qui accumulées font que on ne sait pas qui sont les électeurs démocrates, mais par exemple on sait qui sont les électeurs africains américains, et on sait que les électeurs africains américains votent à 90%, voire 95% quand on a Barack Obama, pour le parti républicain, pour le parti démocrate, pardon. Et donc on peut faire, on peut utiliser ce genre de données statistiques pour passer des lois. Et donc on a ce mouvement des Républicains et on a, je peux pas m'empêcher d'être là et donc de faire un petit, voilà. On revient sur ce qui s'est passé aux élections 2018, aux élections demi-mandat. On a des élections locales et on en a une très intéressante qui s'est passée en Floride et qui pourrait avoir des conséquences extraordinaires. On a un référendum en Floride, la proposition 4, qui vient de passer, qui met fin à ce que les Républicains avaient mis, et ça va être un bon exemple de, m'avait mis en place. En Floride, on avait mis en place une loi qui rendait pratiquement impossible pour les anciens condamnés de recouvrer leurs droits civiques et notamment le droit de vote. Et là, avec cette réforme, tous les anciens condamnés vont pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et aller voter. Et c'est l'État où on a le plus d'anciens condamnés dans toute l'Union. On parle de plus d'1,5 million d'électeurs potentiels dans un État qui est traditionnellement l'État le plus grand, le swing state. Et donc là, si les démocrates font bien leur travail et les personnes qui sont chargées de personnes de recouvrer leurs droits civiques, on peut aller mobiliser ces anciens condamnés, ces gens qui ont perdu leur droit de vote, les inscrire sur les listes électorales et voir les inciter à aller voter. Et donc là, il y a tout un travail très important qui pourrait tout changer en Floride.
Sur la deuxième partie de ma question, et puis je vous la poserai également Marie-Cécile Nave, qui était sur la mobilisation des jeunes en particulier.
Alors la mobilisation des jeunes, c'est très compliqué pour l'électorat républicain.
Pour le Parti républicain,
oui. On voit que pour le Parti républicain, on voit que dans toutes les études de sondage, les millennials et la génération qui vient après ont des positions beaucoup plus proches du Parti démocrate, en particulier sur tout ce qui est question sociale, le mariage gay, les questions LGBTQ+, j'ai réussi à le dire, tout pour ce qui est des rapports entre groupes ethno-raciaux, lutte contre la discrimination, Black Lives Matter, réforme de la justice, légalisation de la marijuana et tout ça. Et donc, sur le moyen terme, l'électorat républicain souffre de cette position. Ils sont enfermés dans cette position de Trump. On pourrait dire qu'on a un électorat traditionnellement républicain qui aime parler des questions économiques et des questions, on va dire, par exemple, de baisse d'impôts. Et qu'en 2018, Trump, alors qu'il a des indicateurs économiques au vert, décide de faire une campagne lors des élections de mi-mandat sur le mur et sur la caravane de migrants qui arrivent, enfermant complètement le Parti républicain dans un discours nativiste dans lequel les jeunes ne se reconnaissent pas du tout.
Ça veut dire finalement, Marie-Cécile Nave, que puisque les résultats économiques qui étaient plutôt bons de Donald Trump, il ne les a pas précisément utilisés lors de la campagne sur les midterms, ça veut dire qu'au fond, son bilan n'a pas d'importance. Et que pour 2020, que l'économie soit bonne ou que l'économie soit mauvaise, de toute façon, il va pouvoir ressortir la même carte de l'identité, du protectionnisme, de la sécurité, et qu'elle pourrait bien tout autant fonctionner.
C'est probable que ce soit... À ce jour, c'est sa stratégie. Encore une fois, il faut être très prudent avec Donald Trump. Mais à ce jour, c'est sa stratégie, effectivement. Et d'autant plus que les prévisions économiques internationales et nationales sont pas si bonnes pour 2020. On prévoit un ralentissement de la croissance dès 2020 et peut-être même dès cette année, une explosion de la dette, une explosion du déficit fédéral, et donc par conséquent une remontée des taux de la Banque centrale, ce qui aura une frilosité dans les embauches et dans l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, on est quasiment dans un...
Mais est-ce que ça va ébranler la base électorale de Donald Trump?
Dans la mesure où les individus se rendent compte que leur vie finalement n'a pas tellement changé par rapport aux promesses, parce qu'on dit beaucoup, Trump a tenu ses promesses sur un certain nombre de sujets, sur la protection des oubliés entre guillemets de l'Amérique, c'est faux. Sur les classes populaires, la petite classe moyenne qui ne voit pas son salaire augmenter, qui a un emploi, qui occupe des emplois à temps partiel, un emploi flexible, des emplois dans les industries traditionnelles, tout ça, leur situation n'a pas changé. Et puis la grande réforme fiscale, et là aussi il va falloir faire un effort du côté du Parti républicain pour apporter un certain nombre d'avantages fiscaux à la petite classe moyenne qui a été largement oubliée par la grande réforme fiscale qui s'adresse aux plus aisés. Donc Trump va devoir avoir quand même à minima un discours et peut-être des mesures d'ici là avec, c'est possible, hein, de compromis avec les démocrates pour s'adresser aux plus démunis qui ont pas majorité, c'est pas la majorité de son électorat en 2016 comme on le croit parfois, ça reste un électorat plutôt traditionnel du Parti républicain, mais dont s'il les perd en 2020, il ne pourra pas gagner.
Olivier Richaume, et puis ensuite on va retrouver un nouvel invité pour parler d'Israël.
J'aurais plutôt tendance à vous suivre sur cette question, parce que vous partez du présupposé que l'électorat serait, que l'électeur moyen serait rationnel, alors que non, je pense que, et donc là il y a des études empiriques là-dessus,
collègues
de Princeton sur Democracy for Realists, ce ne serait pas la première fois que des électeurs votent contre leur intérêt économique.
C'est ce qu'ils ont fait en 2016.
Et ça s'est répété, et on instrumentalise la peur, exactement, et vous avez raison, et la peur, et il se trouve que cette peur du déclassement, cette peur des non-blancs, cette peur d'être une minorité, au final, a l'air, pour l'instant, en tous les cas, de satisfaire ou d'attirer plus cet électorat.
Marie-Cécile.
Il y a un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine émission.
Absolument, avec plaisir.
C'est le poids de l'argent privé dans les campagnes, contrairement à d'autres pays comme la France, par exemple. Il n'y a pas de plafond dans les dons que les entreprises, les lobbies et les individus peuvent donner aux partis et aux candidats par le biais des political action committees, ouais, et les comités d'action politique qui récoltent cet argent. Et donc, on atteint des records de les midterms. On est arrivé à plus de 4 milliards de dollars de
dons. À chaque élection, on a un record depuis des années.
À chaque élection, on a un record. Le poids de l'argent privé dans les campagnes politiques aux États-Unis, c'est une vraie question démocratique.
Ou non démocratique. On ne l'a pas retenu aujourd'hui parce qu'il y a évidemment énormément de thèmes à évoquer. Mais on a parlé hier de la question du financement, mais effectivement, il n'est pas question des États-Unis. Allez, direction Israël. En Israël, des élections anticipées se tiendront en avril prochain. Et si le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'est pas certain de les emporter, il détient déjà un record dans l'histoire de l'État hébreu. Ça fait maintenant 12 ans et plus de 11 mois qu'il est à la tête du gouvernement, en plusieurs morceaux. Il est le Premier ministre qui a exercé cette fonction le plus longtemps, après David Ben-Gourion, fondateur de l'État d'Israël, qui était lui resté un peu plus de 13 ans. Donc le record est sur le point d'être battu. On va justement peut-être d'abord entendre Benjamin Netanyahou en 1993, au moment justement où il devient Premier ministre.
J'ai été de ceux qui ont défendu le projet de loi sur les élections au scrutin direct et j'ai demandé le rajout d'un article spécifique. Il est écrit qu'un Premier ministre ne peut pas accomplir plus de deux mandats et je vais vous dire pourquoi. Si vous n'avez pu accomplir les objectifs que vous vous étiez fixés au cours du premier mandat, alors vous les réaliserez lors de votre second mandat. Mais vous n'avez pas besoin de plus de temps pour cela. Faites ce pourquoi vous avez été élu et rentrez chez vous. Politiquement, j'entends, bien sûr. Rentrez chez vous. Je veux dire, après ce job, je serai heureux de faire d'autres choses et j'espère que je serai en mesure de les faire.
Bon, finalement, il est rentré chez lui, mais il est revenu ensuite, Benjamin Netanyahou. C'était 1993, son arrivée comme Premier ministre. Quelle est la recette de la longévité de Benjamin Netanyahou? Il a quelques secrets, peut-être, pour séduire les électeurs israéliens. Bonjour Jean-Pierre Filiou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Et vous signez un ouvrage qui vient de paraître à la découverte, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Votre ouvrage, Jean-Pierre Filiou, s'ouvre sur la raison qui vous a poussé à écrire ce livre, c'est-à-dire la déclaration du Premier ministre israélien devant le Congrès sioniste mondial à Jérusalem la veille d'une visite officielle en Allemagne. Netanyahou y raconte sa version de la rencontre en novembre 41 entre Adolf Hitler et le grand moufti Al-Husseini de Jérusalem, dans laquelle il fait du responsable religieux l'instigateur, l'initiateur de la solution finale, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Et cette déclaration, cette provocation va provoquer un véritable tollé, à tel point qu'Angela Merkel va se sentir obligée de réaffirmer la responsabilité de l'Allemagne. Et cette affaire semble incarner, en tout cas à vos yeux, la dérive actuelle de la démocratie israélienne qui se rapproche, dites-vous, dangereusement des démocraties libérales. C'est ça la recette du succès de Netanyahou, c'est-à-dire transgresser la réalité, tordre l'histoire jusqu'au révisionnisme. La réussite politique de Benjamin Netanyahou, elle est fondée sur le mensonge, Jean-Pierre Filiou?
En tout cas, le mensonge comme arme d'État, il l'a pratiqué de manière systématique. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt les précédents intervenants. À bien des égards, Netanyahou a fait du Trump avant Trump. Il a systématisé les fake news en dégradant de manière inédite le débat public en Israël. Et il a systématiquement essayé de contourner les médias traditionnels qu'il accuse d'être globalement vendus à la gauche, voire aux Arabes, en faveur des réseaux sociaux et de leurs messages percutants, mais parfois très réducteurs. Et puis il y a la question qui a juste avant été évoquée, des financements privés. Netanyahou est l'homme d'une transformation de la vie politique en Israël par justement des dons privés qui lui arrivent massivement depuis les États-Unis et très souvent depuis la même droite dure qui soutient Trump et les républicains les plus faucons.
C'est à cela que vous pensez quand vous évoquez l'américanisation inédite de la vie politique israélienne. Je vous cite page 62. C'est la question du financement.
La question du financement et la question de la campagne, très précisément. Donc c'est en 1996 qu'il est élu contre toute attente face à Shimon Peres, successeur d'Itzhak Rabin assassiné quelques mois plus tôt, qui jouissait non seulement de la faveur des sondages, mais du soutien du monde entier. Il va faire une campagne qui est dirigée secrètement, notez-le bien, par un communicant politique grassement payé des États-Unis, Arthur J. Finkelstein, qui a déjà été le gourou de victoire inattendue de la droite dure aux États-Unis. Ils vont cibler des segments de l'électorat israélien, c'est tout à fait inédit, avec des messages de peur, des messages très consciemment mensongers, par exemple disant que Jérusalem va être divisée si Peres est élu, alors qu'à aucun moment la question de Jérusalem n'avait encore été abordée entre Israël et les Palestiniens.
Mmh. Oui, il y a Arthur J. Finkelstein que vous évoquez, mais il y a un autre personnage qui lui aussi peut-être participe de cette américanisation, c'est Ronald Lauder, qui est un milliardaire américain qui a longtemps soutenu financièrement Netanyahou. Vous reveniez sur 96, effectivement, Netanyahou remporte les élections contre Shimon Peres avec une assez courte avance. À l'époque, il se pose comme l'homme de la sécurité, l'homme de l'antiterrorisme. C'est vraiment ça qui va faire la définition, la structure de cette campagne-là. Et pourtant, vous dites que son bilan en matière d'antiterrorisme, Jean-Pierre Filliou, il s'avérera pas aussi probant que ça, et que c'est d'ailleurs précisément ce qui va le faire perdre aux élections de 99 face à un autre concurrent, en l'occurrence Ehud Barak, travailliste. Il va ensuite, Netanyahou, connaître une petite traversée du désert, toute relative, parce qu'il va quand même occuper des postes ministériels, et puis il revient en 2009. Qu'est-ce qui fait son comeback de 2009? Est-ce que la tactique politique à ce moment-là a changé pour regagner le pouvoir?
D'abord, il a appris de ses erreurs et puis surtout, il a modifié sa communication. C'est au cœur de sa démarche politique et il s'oppose à la recomposition de la scène israélienne qu'Ariel Sharon, avant de sombrer dans le coma en 2006, avait initié autour d'un grand parti centriste, le parti Kadima. Il va décider de faire campagne et de gouverner à droite et à l'extrême droite. Et il faut noter que dans cette campagne de 2009, il n'est pas celui qui arrive en tête. C'est parce qu'il aura justement consolidé au préalable une majorité potentielle qu'il peut revenir aux affaires. Il est reconduit en 2013, en 2015, et là maintenant, l'enjeu est beaucoup plus ouvert pour les élections anticipées du 9 avril prochain. Mmh.
Parlons un petit peu, Jean-Pierre Filliou, de la question des réseaux sociaux et de la manière dont Netanyahou peut l'utiliser. Vous racontez comment, dans les campagnes, dans la campagne actuelle notamment, le Premier ministre utilise ses réseaux sociaux pour mobiliser son électorat, comment il a combattu avec un certain succès, vous le dites. Toute velléité de légiférer l'utilisation politique des réseaux sociaux pour pouvoir justement les utiliser sans limite. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment Netanyahou utilise ses réseaux sociaux et nous donner peut-être quelques exemples un peu probants qui nous permettent de comprendre comment il parvient à mettre en place une véritable machine de propagande, je mets des guillemets, mais c'est une formule que vous utilisez, vous, dans votre ouvrage.
Oui, je crois que le terme de propagande s'applique tout à fait. Il y a la propagande gouvernementale, c'est-à-dire la communication gouvernementale, qui est payée par les contribuables israéliens, avec 5 comptes Twitter, 5 pages Facebook en hébreu, en anglais, en arabe, en russe et en persan, une chaîne YouTube et un compte Instagram dédié, je suis évidemment abonné.
C'est de la communication politique, ça ne veut pas dire que c'est de la propagande.
À partir du moment où on caricature les positions des uns des autres, on est vraiment dans quelque chose qui va au-delà de la communication politique. Il faut savoir que le débat israélien est très, et justement du fait de Netanyahou, a été très radicalisé. Mmh. Mais juste pour donner un ordre de grandeur, on a un total d'abonnés au compte de Netanyahou de 5 millions pour une population israélienne connectée à Internet de 6 millions et demi. Alors certes, il a beaucoup d'abonnés en dehors des frontières d'Israël, mais c'est quand même considérable. Mmh. Et puis une anecdote, deux anecdotes. En 2015, le jour même du vote aux précédentes élections, il intervient par une vidéo face caméra sur Facebook en disant, je cite à peu près de mémoire, les ONG de gauche amènent les Arabes en masse dans les bureaux de vote, hein, sous-entendu, réagissez avant que votre vote ne soit détourné.
Le jour du vote.
Le jour même du vote. Mmh.
Ça a fonctionné? Parce que j'imagine que l'objectif, c'était précisément de mobiliser son électorat.
On a eu une mobilisation inédite au cours des précédents scrutins. Donc il est impossible à dire si cet appel à l'aide des dernières heures a été aussi efficace qu'on a pu le prétendre, mais il est certain que c'est la première fois dans une campagne israélienne qu'on cible une catégorie d'électeurs, en l'occurrence les Arabes israéliens, pour mobiliser une autre catégorie d'électeurs contre eux. Et puis, il y a eu plus récemment, alors là, le résultat a été plus discutable, comme Netanyahou est sous le coup d'une possible mise en examen dans trois affaires de corruption pour lesquelles la police a d'ores et déjà recommandé cette mise en examen, eh bien, il a commencé à expliquer sur les réseaux sociaux, sur un ton un peu badin, la corruption sans pot de vin, c'est comme une omelette sans œufs. Bon, ça marchait pas très bien. Et donc, il a dit, c'est comme le football sans Lionel Messi. Alors là, bon, ça a encore moins bien marché. Son argument étant que comme c'était des échanges de faveurs, qu'il n'y avait pas eu effectivement de versement d'enveloppe, il ne pouvait pas y avoir de corruption. Enfin, pour un Premier ministre, y compris sur des comptes gouvernementaux, vous conviendrez qu'on va bien au-delà de la communication politique et qu'on est sur le terrain de la propagande.
Jean-Pierre Filliou, vous restez avec nous, mais je voudrais évidemment faire réagir nos invités, parce que là, il y a tellement, au fond, de jeux de miroir à faire entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, que ce soit sur l'outrance, que ce soit sur les affaires, que ce soit sur l'utilisation des réseaux sociaux. Olivier Richomme, Marie-Cécile Nave.
Il y a peu de pays dans le monde qui pourraient, dans une campagne électorale, s'appuyer sur les, copier un petit peu le fonctionnement de la campagne de Trump. Ça fonctionne bien, effectivement, peut-être en Israël. Et
Jean-Pierre Filliou dit même, il faisait du Trump avant
ouais,
Trump.
Oui, je suis assez d'accord. Et la question de la désinformation et de jouer sur les peurs, d'avoir un discours finalement, pessimiste, de se refermer sur soi-même, de crispation identitaire qui s'appuie beaucoup sur l'émotion et sur l'irrationnel, qui fait la joie des fake news. C'est intéressant de voir comment ça se passe dans un autre pays. C'est le cas aussi dans le Brésil de Bolsonaro, c'est le cas en Hongrie avec Orban, en Italie, Salvini, etc.
Oui, c'est assez bien partagé. Olivier Richomme.
Oui, non, moi, ce qui me frappe, c'est le parallèle entre les deux pays, c'est le fait que Trump ait réussi à présenter les États-Unis, l'empire américain, comme cette enclave qui est menacée d'être envahie par les étrangers, donc hispaniques, mais aussi des gens du Moyen-Orient qui arrivent par le Sud. C'est assez flagrant ce parallèle sur cet état d'esprit en tous les cas, et cette peur et son instrumentalisation.
Avec un passé, avec l'instrumentalisation d'un passé mythifié, comme si à une certaine époque l'Amérique n'avait été protégée de l'immigration, alors que c'est un pays d'immigration et qui n'a jamais été monochrome sur le plan ethnique et racial.
D'ailleurs, cette peur de l'extérieur que vous évoquez, Olivier Richomme, Jean-Pierre Filliou, on la retrouve du côté d'Israël, et pas seulement l'extérieur. Non, mais pas seulement l'extérieur qui serait le monde arabe, l'extérieur aussi qui serait la diaspora en réalité. Vous expliquez, Jean-Pierre Filliou, que pour, en tout cas du point de vue de Netanyahou, cette diaspora, elle constitue une menace politique pour Benjamin Netanyahou.
Netanyahou est prêt à faire du sionisme sans diaspora, ce qui prouve que c'est un homme politique plein d'inventivité, et à s'appuyer sur ce qu'on appelle aux États-Unis les sionistes chrétiens, mais c'est pas uniquement maintenant aux États-Unis, on voit les évangéliques qui ont porté en partie Bolsonaro au pouvoir, qui lui ont immédiatement demandé le transfert de l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Donc il y a effectivement cette diaspora juive avec laquelle Netanyahou a des rapports d'une agressivité sans précédent. Et puis il se prétend l'inspirateur du mur de Trump, parce que lui aussi a fait un mur. Alors c'est pas le mur qu'on évoque le plus souvent, qui est le mur en Cisjordanie. C'est le mur à la frontière entre Israël et l'Égypte, donc dans le désert du Sinaï, et qui a effectivement endigué progressivement une immigration illégale d'origine africaine contre laquelle Netanyahou mobilise très régulièrement en faisant tous les parallèles que vous pouvez imaginer avec les illégaux aux États-Unis, mais aussi avec les réfugiés en Europe. Cette immigration africaine, essentiellement venue du Soudan et de l'Érythrée, donc deux des régimes les plus barbares de la planète, il la présente vraiment comme une menace existentielle pour l'identité d'Israël. Si un pays qui est fondé sur l'immigration encore plus que les États-Unis, c'est quand même bien Israël.
Et donc c'est la raison pour laquelle, vous avez sous-titré votre ouvrage, Netanyahou, et la fin du rêve sioniste, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait, en tout cas c'est comme ça que Netanyahou le pense, rompre avec cette vision assimilationniste qui serait une menace pour l'identité juive, en tout cas telle qu'elle est pensée par Netanyahou.
Oui, il dit de manière très crue, hein, que la diaspora menace cette identité par l'assimilation et que ce n'est que sur la terre d'Israël, mais pas sur n'importe quelle terre d'Israël, la terre d'Israël telle qu'il la conçoit dans sa propre vision du monde, très pessimiste, qui rompt en fait avec l'espoir. Hein. Je rappelle que l'hymne national israélien, qui était le chant des pionniers sionistes, a pour titre justement l'espoir, Hatikva.
Toute dernière question, Jean-Pierre Filiou, quand même un petit peu d'actualité. Il nous reste une ou deux minutes. Les Israéliens vont voter aussi le 9 avril prochain pour des élections législatives. Alors, dans les sondages, le Likoud de Netanyahou est en tête, mais l'écart visiblement se resserre avec le parti créé par Benny Gantz, son principal rival, qui est l'ancien chef des forces armées. On pourrait dire, au centre droit. Est-ce que Bibi va l'emporter? Ou est-ce qu'il peut perdre?
Il faut toujours se rappeler que, contrairement à l'élection de 1996, où Netanyahou fait son irruption au devant de la scène politique parce qu'on élit le Premier ministre au suffrage universel direct, il s'agit depuis lors d'élections parlementaires et que le président Reuven Rivlin, que j'ai pu rencontrer récemment à Paris, a une grande marge de manœuvre dans le choix de la personne qui pourra constituer le prochain gouvernement. En 2009, d'ailleurs, Netanyahou n'était pas arrivé en tête. Donc Rivlin pourrait à la fois choisir le leader d'un autre parti, mais aussi une autre personnalité du Likoud, c'est la hantise de Netanyahou. Il est évident que si Netanyahou était mis en examen par la justice sur une des trois affaires de corruption que j'évoquais, son crédit politique en serait très affecté. Mais tout est ouvert. Hein. Mais il faut savoir que justement, c'est ouvert. Ça n'est pas une partie gagnée d'avance pour Netanyahou, d'où le caractère tout à fait pugnace d'une campagne en Israël où le débat politique est de toute façon très vif et combatif.
C'est ouvert en même temps, non seulement il a toutes ses chances, mais ce qu'on voit aussi dans l'histoire récente du pays, c'est que ce qui fait aussi la force de Netanyahou, c'est la faiblesse de l'opposition. D'ailleurs de l'opposition sur le plan de l'échec politique, mais aussi de l'opposition à l'intérieur même de son parti.
Bien sûr, mais ça c'est sa grande victoire. Et c'est un animal politique extrêmement efficace et performant, pourquoi je le pose en refondateur d'Israël. Je le mets en parallèle explicite avec le fondateur de l'État d'Israël, qui est David Ben-Gourion, même si beaucoup des opposants à Netanyahou trouvent que mon parallèle est irrévérencieux, mais je le maintiens et je l'argumente.
Merci beaucoup à Jean-Pierre Filiou qui est avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai votre ouvrage « Main basse sur Israël » qui vient de paraître à la découverte. Un grand merci également à nos deux invités ici en plateau de nous avoir éclairé sur la stratégie électorale aux États-Unis, la communication politique. Marie-Cécile Nave, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Trump, la revanche de l'homme blanc », c'était chez Textuel, mais aussi d'un article paru dans Politique Internationale. Je me souviens plus exactement du titre, mais ça doit être « Trump réélu en 2020, point d'interrogation », quelque chose comme ça. Voilà. Vous concernant, Olivier Richomme, de la diversité en Amérique aux presses des Université Paris-Sorbonne, mais aussi des articles, on va mettre tout ça en référence sur le site de Culture Monde. Un grand merci à tous les deux.
Merci.